Bonnie arrive à Portchester. Ce n'était pas un événement qu'allaient oublier ceux qui y avaient été étroitement associés. Les détails furent consignés par la police et étudiés plusieurs mois plus tard par l'inspecteur Bonaparte. Ray Gillen arriva à La Côte-Ouest le 3 septembre et le lendemain, Richard Marter l'inscrivait sur les registres. Comme c'était la règle, aucune question ne fut posée à Gillen au sujet de ses emplois précédents ou de sa vie privée, son employeur voulant uniquement savoir s'il serait capable d'effectuer le travail qui lui avait été confié. Et pour s'occuper des troupeaux, il était certainement compétent. 9 semaines plus tard, dans la nuit du 7 novembre, Gillen se noya dans le lac Otway et le lendemain soir, le chef de la police de Menindee arriva avec M. Wallace, le propriétaire. Marter remit au sergent Mansell toutes les possessions de Gillen après avoir, devant témoin, dressé la liste du contenu de sa valise et de son baluchon. À cette époque, le bâtiment des hommes était occupé par Lester, McLennan, Carney et George Barbie. Il s'agissait d'un bungalow qui comprenait 3 chambres de part et d'autre d'une salle commune. Lester occupait une chambre et McLennan une autre. Carney en partageait une avec Gillen et Barbie avait une chambre pour lui seul. En novembre, il fit très chaud et les hommes descendaient souvent les marches creusées dans la face de la falaise pour aller se baigner dans le lac qui, à ce moment-là, avait une profondeur de 3,70 m. Ni Lester ni McLennan ne savaient nager. Barbie, lui, savait, mais il ne s'aventurait jamais trop loin du rivage. À peu près du même âge, 25 ans, Gillen et Carney étaient tous deux de bons nageurs, surtout Gillen, qui se vantait qu'avec un peu d'entraînement, il serait capable de traverser le lac dans les deux sens. La nuit du 7 novembre, la lune était presque pleine. La journée avait été très chaude et la nuit était tiède et paisible. Les hommes jouèrent au poker avec des allumettes jusqu'à 11h15, heure à laquelle ils allèrent dormir. Carney affirma que Gillen et lui étaient à peine couchés, que Gillen annonça son intention d'aller nager. Sur le point de s'endormir, Carney refusa de l'accompagner. Il déclara que c'était seulement en se réveillant, le lendemain matin, qu'il s'était aperçu de l'absence de Gillen. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était quand Gillen avait éteint la lumière en sortant de la chambre. Il ne portait que son pantalon de pyjama. En vérifiant rapidement les vêtements de Gillen, on constata qu'il n'aurait pas pu revenir du lac, s'endormir, se réveiller tôt et partir. C'est après le petit déjeuner, quand Marter arriva pour distribuer les tâches de la journée, que la disparition de Gillen fut signalée. Pour le sergent Mansell, c'était du travail de routine. Il examina les vêtements, le baluchon de couverture et le contenu de la valise de Gillen, une valise de bonne qualité. Il n'y avait pas d'indice permettant de remonter à sa famille. Il examina sa moto, une machine puissante en bon état, nota son numéro d'immatriculation et de moteur, et il retourna à son bureau. Wallace et son régisseur organisèrent les recherches. On alla chercher les aborigènes près de la rivière, et pendant ce temps, Lester, Carney et McLennan bâtirent les alentours du lac, au cas extrêmement improbable, où Gillen se serait éloigné et perdu. À partir du 3e jour, tous les hommes arpentèrent les abords du lac, attendant que le corps soit rejeté sur la rive. La direction du vent et les courants qu'il provoquait furent soigneusement pris en compte. Mais le corps n'apparut pas et finalement, on supposa qu'il avait été retenu par la clôture métallique qui traversait le lac et était, bien entendu, immergé quand la dépression était pleine d'eau. Dans les affaires de Gillen, il n'y avait ni permis de conduire ni papier pour sa moto. On apprit que le propriétaire légal de l'engin était bûcheron dans le sud du Queensland. On le retrouva à Toowoomba, où il était descendu dans un bon hôtel et dépensait son argent sans compter. Il dit qu'il avait vendu sa moto à un type qui s'appelait Gillen et il le décrivit. Il dit que s'il se trouvait à ce moment-là dans une situation financière enviable, c'était parce qu'il avait acheté, en s'associant avec Gillen, un ticket de loterie qui avait rapporté 25 000 livres. Lorsqu'on lui demanda comment l'argent avait été partagé, L'ouvrier répondit qu'ils avaient été d'accord pour retirer la totalité de la somme, en liquide, à la banque dans laquelle le chèque du prix avait été déposé. Dans une chambre d'hôtel, ils avaient pris chacun leur part en petites coupures. Ils voulaient contempler un gros paquet d'argent, et Guylaine était parti le lendemain sur sa moto en disant qu'il avait l'intention de parcourir l'Australie. Et le côté extraordinaire de cette histoire, de ce coup de chance, de ce partage d'une forte somme en petites coupures, c'était qu'elle était vraie. Guylaine avait quitté Toowoomba avec environ 12 500 livres en poche. Quand Marter avait, le premier, examiné les affaires de Guylaine en présence de Lester et de McLennan, il n'avait pas trouvé d'argent.